voudrais vous raconter l'histoire de la créativité, ou plutôt l'histoire d'un homme. Cet homme, il veut qu'il y ait un avant et un après. Il veut être comme Jésus, ou Darwin, ou Freud, casser l'histoire en deux, l'histoire de la peinture. Il voudrait inventer une manière de peindre qui soit radicalement autre, créer quelque chose de nouveau, à partir de rien, ex nihilo, se laisser totalement traverser par l'inspiration, les muses, son génie. Alors il imagine un tableau, son tableau, le tableau. La toile jamais vue. Il veut être le Rimbaud de la peinture ou rien. Et justement, parce qu'il voit les choses ainsi, parce que c'est tout ou rien, parce qu'il met la barre tellement haut qu'il ne la met en fait nulle part, eh bien c'est rien. Il s'enfonce dans son arrogance, dans son égotrip, et le temps passe sans que personne ne voie cette toile. D'ailleurs, est-ce qu'il crée encore? Est-ce qu'il a raccroché ses pinceaux? C'est tellement pratique de voir les choses comme ça, de distinguer les vrais créateurs de tous ces pauvres petits créatifs, de penser la création comme une création pure, jaillissement d'un génie inédit ou rien, tout ou rien, Cézanne ou rien, Braque ou rien. C'est tellement pratique pour ne jamais y aller, ne jamais se lancer, ne jamais tenter d'apporter au moins sa pierre, sa petite pierre. La meilleure façon de ne rien faire, c'est de prétendre qu'on ne fera que de l'immense. La meilleure façon de fuir l'action, c'est de s'abriter derrière la grande œuvre. Et puis un jour, tout change. Pourquoi ce jour-là? Je ne sais pas. C'est un jour où il a de la peine, il a le cœur serré et en même temps la joie de vivre n'est pas loin. Il la sent en haut de sa poitrine, là, pas loin, juste à côté de sa peine. Il y a comme une compétition entre les deux, entre sa peine et sa joie. Et c'est avec ça qu'il va faire un tableau. Avec sa peine et sa joie qui ressemble un peu à la peine et à la joie de tout le monde. Avec son coup de pinceau qui n'a rien de radicalement nouveau. Avec des formes et des couleurs pas révolutionnaires. Mais quand même, il est pas mal son tableau. Il est même un peu mieux que pas mal. Il ne casse pas l'histoire en deux, mais il parle assez bien d'un cœur brisé. Il y a même, en fait, quelque chose de nouveau dans son tableau. Une manière de coller à la vie. Quelque chose de vrai. C'est comme s'il était redevenu créatif et même créateur dans le moment même où il renonçait à son idée folle de la création. Comme si, ayant renoncé à réinventer la vie, il avait enfin réussi à l'épouser, à la toucher au cœur. Pour en parler ce matin, de créativité et de vie, de cet art de coller à la vie, j'ai la joie de recevoir Vincent Delerme, auteur, compositeur, interprète, mais également photographe, réalisateur, dramaturge. Vincent Delerme, donc le Raymond Carver de la chanson française, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à répondre à cette belle question. Et si la créativité n'était qu'un éternel réagencement?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Vincent Delerme.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ben oui, très bien, et vous?
Ben ça va bien, je vais vous poser directement la question. On va passer une heure ensemble autour de ce beau sujet de philosophie esthétique. Est-ce que la créativité pour vous, c'est plutôt un réagencement de choses qu'on connaît déjà mais qu'on va un peu réaccommoder à une sauce nouvelle? Ou est-ce que c'est quand même un peu plus que ça?
Ça dépend de ce qu'on appelle ce qu'on connaît déjà. Est-ce que ce qu'on connaît déjà, c'est ce qu'on a vu chez d'autres gens qui créent? Ou est-ce que c'est ce qu'on connaît déjà, soit ce qu'on a vécu et transporté après? Déjà techniquement parlant, c'est... Je me disais ça en venant, j'essayais de penser un peu à ce sujet pour pas rendre une copie sèche. Je me disais quand même que techniquement, par exemple en musique, c'est un agencement, on n'a que 12 notes. Et ça, c'est un truc qui est d'ailleurs fou. Je crois que c'est Quincy Jones, le producteur notamment de Jackson, qui disait ça, que c'était dingue. Avec 12 notes, toutes les musiques ont été faites, que ce soit pop ou contemporaine ou classique, et ainsi de suite. Et voilà, donc on n'a pas un choix immense. Et après, bah oui, sur le fond de ce qu'on a à dire, c'était chouette votre lancement aussi pour ça, parce que bizarrement, c'est sûr qu'on a on est souvent tenté d'atteindre un truc qui s'apparenterait au top 10 de quelque chose. C'est-à-dire, c'est un peu un danger dans ces jobs-là. C'est-à-dire, on se dit, ah là là, je serai jamais effectivement Cézanne, Picasso, alors qu'en fait, finalement. Déjà, Cézanne et Picasso n'ont pas toujours été là où ils sont aujourd'hui, mais c'est en musique, par exemple, c'est très présent le top 5. C'est-à-dire que si c'est le moment de succès de Christina and the Queen, on va dire il faut faire un EP parce que c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Si c'est Aurel San, il faut faire des clips comme Aurel San. Et en fait, il y a une sorte de manque de vision abstraite des choses qui est que, il y a 5 personnes tout en haut de la pyramide, mais il y a des milliers de façons d'exister autrement, et justement de réagir. Parce que c'est ça aussi, c'est la question de la cible, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut que tout le monde soit touché? Est-ce qu'on veut faire le truc qui touche le plus grand nombre? C'est pas une question là de popularité, tout ça, c'est juste, est-ce que finalement ce qu'on vit, c'est de faire la Joconde, et que tout le monde voit un peu pas bien le tableau, parce qu'il y a plein de touristes devant qui le prennent en photo, ou est-ce que c'est d'être... aimé par un peu moins de gens, mais voilà, d'une manière plus intime. Et effectivement, en faisant des choses, donc je m'éloigne un peu de, je rebondissais plutôt sur votre début d'émission, mais ouais. Sur le bal, oui, le réagencement, c'est la culture pop. C'est effectivement, moi, en tout cas, personnellement, j'ai fait beaucoup ça quand j'ai commencé. C'est-à-dire que, pour, par exemple, évoquer un sentiment amoureux, je réunissais des fragments de plein de trucs qui étaient, donc c'était une forme de réagencement du moment que j'avais vécu amoureusement.
Ouais.
Et où il y avait ça sur le mur, où la personne avait dit ce petit bout de phrase-là. Et ça, c'est vrai, quand on fait des chansons, on compose beaucoup avec ça. Et dans un premier temps, pour la chanson elle-même, et même après, pour l'ensemble de choses qu'on fait paraître, parce qu'évidemment, les chansons, elles ont un intérêt aussi, les unes par rapport aux autres, dans un album, mais dans un spectacle aussi. Et la chanson est un domaine qui est très particulier à ce niveau-là, parce que c'est le seul, par exemple, en termes de concert, où on peut réagencer des choses qu'on vient de faire l'année d'avant, ouais. il y a trois semaines.
Ou même il y a 20 ans. Ouais.
Et avec des trucs qui datent effectivement d'il y a 20 ans. Un metteur en scène de théâtre peut pas se dire, tiens, cette fois-ci, je vais mettre 12 minutes d'un projet que j'ai fait en 2006, et puis je vais le malaxer avec autre chose. Et en chanson, on malaxe beaucoup, quoi. Justement, on a cette habitude, effectivement, d'agencer.
C'est vrai que c'est dingue ce que vous avez dit, c'est la phrase de Quincy Jones, exactement. Et d'ailleurs, André Manoukian, on a fait tout un spectacle. Il dit, avec 12 notes, il y a toute l'histoire de la musique. Et c'est vrai que, du coup, on part sur cette idée qu'en fait, au cœur du réagencement, en fait, il y a des possibilités folles. Et que peut-être, à force de vouloir que ce soit tout ou rien, en fait, c'est peut-être une manière de pas y aller. C'est peut-être une façon, en fait, de se mettre une barrière infranchissable. Peut-être que la vraie humilité, elle est plus proche de la vraie créativité. Parce que finalement, quand vous parliez, vous dites, ouais, Cézanne n'a pas toujours été Cézanne, je pense que ces gens-là, peut-être qu'ils avaient au cœur une grande ambition, mais je pense qu'ils avaient plus d'humilité que le petit amateur qui se dit, moi, je vais être Cézanne, en fait.
Ouais, après humilité, c'est toujours un mot un peu comment dire, c'est un peu flatteur, c'est-à-dire que quand c'est une sorte de, il y a une connotation presque un peu morale de modestie et tout ça, mais au-delà de ça, en tout cas, j'ai toujours pensé que les gens qui durent, c'est plus une question de tempérament que de talent pur, c'est-à-dire qu'il faut quand même effectivement il y a des moments qui sont super, où tout le monde vous applaudit, où tout roule, tout le monde vous dit dans les émissions, ah, on est tellement content de vous recevoir, puis après un peu moins, et ça fait un peu un effet curieux, par exemple, justement, quand on fait du spectacle, parce que physiquement, on est confronté à des gens qui se mettent debout à la fin d'un spectacle, et puis si 3 ans après, vous passez dans la même ville, et qu'il y a la moitié des gens qui est parti, vous dites, mais comment c'est bien? En fait, les gens ne m'aimaient pas vraiment à l'époque, donc enfin, il faut ravaler ce truc-là, et puis repasser 4 ans plus tard, puis qu'à nouveau la salle soit pleine, mais si on y va que pour que ça roule tout le temps, évidemment qu'il y a des moments où on lâche l'affaire. Les gens qui continuent souvent, c'est qu'ils ont, ils se disent, bon bah moi j'ai ça à défendre, et quoi qu'il arrive, mais il y aura des jours où il fait grand soleil, des jours où il va pleuvoir, et je vais continuer de défendre ça. Et c'est ce truc là du tempérament, il est, oui, ça compte beaucoup. J'ai passé un peu de temps avec Mathieu Bogarde récemment. Oui. C'est vraiment pour moi un chanteur justement qui trace sa route, quelles que soient les intempéries, et puis il y a des moments ça sourit, des fois moins, et ainsi de suite.
Ouais, d'ailleurs, vous avez fait un duo avec lui dans votre album de 2007, Favorite Songs, je crois.
Ah oui.
Où il y a plein de duos. Et notamment celui-là, cet extrait, ce duo avec Kali, que je trouve sublime. Et on va en parler juste après.
Quoi ? Notre amour fou ne resterait que des cendres. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu préfères mourir que de te rendre. Va donc savoir, va comprendre.
Ça aussi, d'abord je l'ai mis parce que je trouve ça sublime, je l'écoute très souvent, mais ça nous fait réfléchir aussi sur la créativité, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est une reprise, c'est un duo, c'est pas une chanson originale de vous, et pourtant il y a de la créativité. Alors elle se niche dans quoi finalement ?
Ah oui, alors ça c'est un bon sujet, c'est rare qu'on parle de ça, mais c'est sûr que quand on fait par exemple des reprises ou des duos, évidemment qu'il y a le moment, bah là en l'occurrence on avait fait 3 semaines de Cigale, il y avait un invité chaque soir et on a réuni ça à la fin. Donc il y a le moment où on a une sorte d'évidence sur le fait qu'on a envie d'inviter telle personne ou telle personne, parce que c'est des gens que vous aimez bien.
Et ouais, vous vous êtes fait bien plaisir, mais, hein, Alain Chanfort,
mais après,
Yves Simon.
Exactement, mais après il y a toujours ce truc-là, y compris quand on choisit la chanson du... Là c'était une reprise qui est ni une chanson de Kali ni de moi évidemment, mais par exemple si c'est un vieux de la vieille ou il y avait Moustaki,
ouais,
ou des gens comme ça, on doit se dire... se projeter, se dire, en fait, là, donc la situation, c'est ça, il y a Moustaki qui rentre sur scène, qu'est-ce qui va être le mieux, qu'est-ce qui va être le plus adapté, qui va faire que En gros, les deux univers vont se réunir entre les deux chanteurs. Et ça, moi, j'adore passer du temps à ça. Mais c'est un truc que j'ai toujours eu. J'ai toujours fait des... Avant même d'avoir écrit les chansons, quand j'étais lycéen, je faisais des setlists avec l'ordre des chansons qui n'existaient pas. Donc, il y avait juste le titre. Et je me disais, bon, celle-là, c'est plutôt une chanson comme ci, comme ça. Et ça, évidemment, j'adore. Après, il y a aussi toute la part un peu, comment dire... Parce que une des choses que j'aime en chanson, c'est qu'on sait jamais trop d'où le charme vient.
C'est ça.
Et que, est-ce que c'est les paroles? Est-ce que c'est le chanteur? Est-ce que c'est son attitude? Est-ce que c'est l'arrangement? Là, en l'occurrence, le charme grand de cette chanson, s'il y en a, pardon, c'est qu'il y a aussi Ibrahim Malouf qui était avec moi en tournée sur dans cette période-là de ma vie et qui fait une trompette très, à la fois discrète, avec des notes très tenues, mais qui est très indispensable à tout le côté émotionnel. C'est une force qu'avait Ibrahim, qui l'utilise pas tant que ça d'ailleurs dans sa musique à lui, mais il a un côté très musique baroque aussi.
Ouais.
Et moi j'adorais utiliser ce truc-là chez lui, d'avoir ces harmonies un peu comme ça qui serrent un peu le cœur.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, que deux voix, finalement, quand elles se rencontrent, produisent quelque chose de particulier?
Ça, j'ai pas de grande théorie là-dessus, parce que ça implique un peu, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'humilité, il y a tout de suite des mots qui arrivent, genre la générosité, ou une vraie rencontre. Des fois, c'est mystérieux, il y a des gens dont on n'est pas si proche que ça, et effectivement, ça va fonctionner. D'autres fois, des gens dont on sent hyper... Mais bon, c'est sûr qu'il y a quand même un truc de... Faut un peu faire attention l'un à l'autre, en l'occurrence dans les duos. Déjà en amont, il y a une sorte de, faut avoir un peu de prévenance, parce qu'en général, les deux personnes n'ont pas la même tonalité, donc il y a cette idée que souvent, dans un duo, il y en a toujours un des deux qui se fait avoir. Donc, parce qu'il est trop loin de sa tonalité de départ.
Dans le duo, mais là, avec il faut Kali, trouver le truc. Dans ce qu'on a écouté, bah
justement,
qu'est-ce qu'il
se fait avoir. Kali, lui, il a fait du bal pendant longtemps. C'est un mec qui a une grosse amplitude vocale, donc c'est moins le souci. Mais par exemple, si je chante avec Albin ou de la Simone, pardon, avec des gens qui ont un peu une note comme d'une voix comme la mienne, qui a pas un spectre infini, forcément, il faut faire attention de pas passer en force et de pas dire oui, ça va être ça. Bref, et le fait de s'écouter quand même et de faire attention. J'ai un souvenir d'un duo comme ça qui m'avait frappé. J'avais eu à chanter, alors c'était pas dans mes spectacles, c'était au Grand Rex avec Michel Delpech, une chanson qui s'appelle Ce lundi-là. Ouais. Et en fait, il est venu faire le piano, il tournait presque le dos à la salle, et là, il était totalement branché sur... c'est un truc que j'aime bien faire quand il y a un duo, être au piano et justement accompagner. Moi, je pense que j'aurais pu être aussi journaliste musical par certains côtés.
Je crois que c'était une idée que vous aviez jeune.
Bah, en fait, comme j'étais fan de la chanson en général, j'aurais pu, être juste quelqu'un qui parle de ça, qui n'en fait pas, et puis j'aurais pu aussi être musicien d'accompagnement, je pense, parce que j'aime toujours. J'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme Alain Lanty, par exemple, qui est un pianiste qui quand il vous accompagne sur une chanson, fait quelque chose qui paraît assez simple, qui n'est pas du tout virtuose, mais qui est toujours au service de la chanson.
Ouais. Et il y avait une chanson que vous avez prise en duo comme ça avec Benjamin Biolay, les chanteurs sont tous les mêmes, dans votre album À présent de 2016. Mmh. Là, on pourrait dire qu'on est dans le cas que vous évoquez, des voix qui sont pas opposées, quoi.
Oui.
Et pourtant, ça marche quand même. C'est quoi alors? C'est de l'écoute, c'est de la confiance.
Après, il y a toujours une histoire, par exemple, avec Benjamin, on avait souvent fait allusion à ce truc d'un festival qui s'appelle le Festival à Côte d'Opale, dans lequel on joue dans des gymnases et c'est souvent en fin d'après-midi, donc il fait encore grand jour, donc vous jouez, puis à côté de vous il y a un gros panneau de basket, il y a les marques du terrain de handball au sol, et c'est un truc que j'aime bien, en gros, qui est très spécifique, je trouve, aussi, à la chanson, c'est que entre chanteurs, on s'est tous un peu ridiculisés, quoi, les uns devant les autres, donc c'est un domaine où on peut pas trop faire les malins. On a tous fait des émissions avec des néons roses qui clignotent, avec un micro qui marche pas, et donc ça fait qu'il y a souvent quand même une assez bonne ambiance entre nous, même si on n'a pas tous le même univers ou la même manière de voir les choses. Donc voilà, c'est une chanson qui parle un peu de ça aussi, qui a ce truc-là, encore toi, je sais plus ce que c'est, en concert, dans le gymnase de Boulogne-sur-Mer. C'est-à-dire que même si on mène avec Benjamin, on a à cœur d'être relativement élégant, on fait un peu les malins sur certains trucs, mais en même temps, on sait qu'on passe de temps en temps en plein jour dans le gymnase de Boulogne-sur-Mer.
Est-ce que le plaisir, pour vous, c'est important dans la créativité? Est-ce que c'est le critère? Je vais argumenter un peu ma question. Il y a Bergson qui dit un truc très beau. Il dit, voilà, la nature ne fait rien en vain. Donc, il reprend une idée d'Aristote. Et il dit que la nature nous a envoyé un signe que nous sommes créatif, c'est-à-dire au fond que nous sommes en contact avec ce qu'il appelle l'élan vital, et il dit, et ce signe est la joie. Et il dit, toute grande joie, donc c'est Bergson, à toute grande joie, un accent triomphal. La joie nous dit toujours que la vie a remporté une victoire, qu'il y a quelque chose de triomphal dans la joie. Est-ce que ça, pour vous, plaisir ou joie, c'est un aiguillon de la créativité?
C'est pas un aiguillon, c'est quelque chose que, effectivement, qu'on peut constater de temps en temps après, mais ça intervient assez rarement. C'est parce qu'il y a finalement la plupart des chansons qu'on peut faire. Pardon, je parle beaucoup de chansons, mais c'est parce que c'est ce que je connais.
On parlera quand même de photos après.
Ouais, ça marche. Et qui est un domaine, c'est pas que c'est moins créatif, mais c'est plus une, on en parlera tout à l'heure, mais c'est plus une capture de quelque chose qui existerait aussi sans vous d'une certaine manière. Mais en chanson, la plupart du temps, on écrit des trucs dont on sait pourquoi on les écrit, parce que c'est un schéma une grille d'accords qu'on a depuis longtemps, qu'on a tendance à reproduire, un certain type de mélodie pareil, qui est pas forcément très surprenant, et puis pareil pour les paroles, c'est souvent des choses où on sait qu'on voulait parler de ça depuis longtemps, et puis de temps en temps, il y a quelque chose qui vous échappe un peu plus, et vous finissez la chanson, mais bon, c'est une fois sur 15, hein, peut-être même pas, et vous dites, ah, c'est marrant, je pensais pas que je contenais ce truc-là, quoi. Et souvent, voilà. Il dit ça, il dit, il y a des chansons qui sont mieux que nous. Et ça, dans ces moments-là, oui. Là, il y a une sorte de on se sent presque extérieur à ce qui s'est passé. Et ça rend très, très content. Après, ça passe très vite parce que vous faites écouter la chanson à des gens autour de, enfin, bon, bref. Il y a toujours un moment où vous vous calmez, mais ça arrive que, oui, dans la création pure. Et il y a ça aussi quand on finit un disque, le laps de temps qui entre l'album fini, voilà, qui bougera plus, et le moment où il sort et où il appartient à tout le monde, et ben là il y a un moment où on a plaisir à réécouter l'album et tout ça, et puis après, une fois que c'est sorti, ça devient autre chose, et puis vous réécoutez pas vos disques, mais il y a un petit moment comme ça où on a l'impression qu'on a fait un truc qui est chouette et mais c'est court, mais heureusement qu'on l'a de temps en temps, parce qu'il y a quand même à l'inverse, parce que ça fait un peu ravi de la crèche de parler d'un moment où on réécoute son disque avant qu'il sorte et tout. La plupart du temps, c'est un peu inverse, et c'est souvent ce serait un peu décevant pour les gens de savoir à quel point on passe du temps à travailler dans la gadoue et à faire des trucs qui n'ont aucun intérêt.
J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens.
Alors, c'est évidemment une très belle reprise des gens qui doutent d'Anne Sylvestre. Quel rapport votre doute entretient avec votre créativité? Est-ce que c'est toujours un moteur? Est-ce qu'il y a parfois trop de doutes? Est-ce qu'il y a un bon doute et un mauvais doute?
Comme ça, traitement, j'ai plutôt pas tendance à réfléchir de cette manière-là. Après, le doute qu'on a, c'est toujours... C'est vrai que c'est un peu perverti, parce que quand on commence, on espère se faire apprécier par des gens qu'on ne connaît pas du tout. Je sais que j'avais une image mentale, j'étais à Rouen, je me disais, il faut qu'il y ait pas beaucoup de monde, mais quelques filles dans la ville de Rouen qui aient une cassette de ce que je fais, et puis que ça compte beaucoup pour elles. Dans cette idée, pas forcément trop de gens, mais par contre les gens qui aiment bien, qu'ils aiment vraiment bien, et que
d'ailleurs vous faites pas d'énormes salles, alors que vous pourriez, c'est pas votre truc.
Oui, le plus gros qu'on fasse, ça va être un Olympia de temps en temps, mais c'est souvent la Cigale, et effectivement, je préfère effectivement revenir 3 semaines dans la même salle plutôt que de faire une fois une immense salle. C'est à la fois par plaisir de ça, d'un truc un peu musical, de revenir tous les jours, de retrouver la loge, d'y retourner. Et puis parce que ça aurait pas de sens aussi par rapport à ce que je chante qu'il y ait des petites barrières ou des agents de sécurité au pied de la scène. Mais en fait, et après par contre, une fois que ça fait un moment que vous faites ça, le doute il est là, il est dans le fait que, notamment justement sur les concerts, que les gens viennent et que vous ayez fait un peu le seul cauchemar que je fais lié à ce métier, c'est c'est la première d'une tournée, j'arrive sur scène et je dis, bah, là, pardon, j'ai rien eu le temps de préparer, quoi. Il y a aucune idée, il y a juste les chansons, donc, bon, c'est un peu à psychanalyser de se dire,
pas mal,
si je viens avec les chansons, ça suffit pas. Mais enfin, j'ai toujours passé beaucoup de temps, effectivement, à essayer d'organiser les chansons autrement dans chaque spectacle, de trouver des idées et
c'est un spectacle. Il y a une scénographie, il y a beaucoup d'humour. Moi, je vous ai vu à La Cigale et la première fois, je pensais pas que vous étiez si drôle.
Bah, en fait, je venais d'une bande de théâtre au départ, effectivement, quand j'étais étudiant, et puis ça m'a toujours plu aussi cette manière d'organiser les choses, du théâtre aussi, d'être assez précis, après de pouvoir s'échapper de ça, mais d'avoir quand même une organisation, des moments, des choses qui tombent et qui sont dans le timing. Et puis après, drôle, en fait, finalement, c'est quelque chose que j'aimais bien faire, justement, quand j'étais étudiant en théâtre. Si j'étais face à une salle, je jouais avec le silence et je tirais une tête pas possible et ça faisait rigoler les gens. Mais c'est sûr que si vous vous amusez à faire ça dans une émission de radio, ça fera rire personne. C'est quelque chose qui ne prend une valeur que parce qu'il y a du public et que vous êtes à un endroit où on se dit, tiens, c'est marrant, le mec, il fait ça, alors que normalement, on n'est pas censé faire ça comme ça. Et c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur de pas à tout prix vouloir imposer les séquences que je faisais sur scène quand je fais une émission de télé et tout ça, parce que déjà il y a plein d'endroits où on m'aurait dit non, c'est pas ça le code. Et puis il y a aussi une idée de durée, c'est-à-dire que ce qui fait aussi que les gens rentrent dans une logique comme ça, c'est le fait de passer une heure et demie ou deux heures avec vous, et ça se fait moins sur 3 minutes.
Ouais, vous les invitez, c'est ça qui est très très particulier. Tout le monde fait pas ça dans votre univers sonore, visuel, mental. Alors vous sortez en octobre un double album accompagné d'un livre qui porte pour titre Comme une histoire sans parole. On en parlera après, mais on va écouter tout de suite un extrait de ce double album qui sort en octobre avec Jeanne.
Et je vois très bien ta robe sur la scène, visage de profil Aventura, la loge, le bordel, les 4 semaines, la place de Clichy, ce printemps-là, à Nantes et à Rouen, les rêves sont les mêmes. Sur la place, on traîne, on s'achète un truc et on s'assoit avec Jeanne. Avec Jeanne. Les trains nous emmènent Montpellier, Mulhouse, chacun pour soi. Pourvu que plus tard tu m'écrives quand même. Dernier salut, j'ai pensé à toi. Et toujours tes vocalises qui reviennent. À travers le mur, j'entends ta voix. Quelle que soit la vie, quoi qu'on devienne, la place de Clichy, on a vécu ça.
C'était avec Jeanne de Vincent Delerme.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous avons toujours le plaisir d'être avec Vincent Delerme. On discute tranquillement de créativité, de bonheur, de la joie, de la mémoire. Et alors vous sortez en octobre prochain, donc dans 2 mois, c'est ça, 2 mois et demi, quelque chose d'assez particulier. D'abord, c'est un double album accompagné d'un gros livre où vous revenez, on pourrait dire, sur 20 ans de chemin, de carrière. Et dans le double album, il y a un premier album qui s'appelle Comme une histoire, où vous revenez sur comment vous avez composé certains morceaux. Il y a des extraits de sons, des premières versions qu'on n'avait pas entendues, des moments de radio. Et puis le deuxième qui m'a fasciné, qui s'appelle Sans Parole. On va commencer par parler de ça, où je vais essayer de le décrire. Vous êtes au piano et vous nous faites entendre, je ne dirais pas vous rejouez la plupart de vos chansons, mais sans parole. Alors parfois on a juste les accords, parfois il y a une esquisse de mélodie, parfois ni l'un ni l'autre, mais on reconnaît enfin on reconnaît quand même.
Ouais, des fois s'il n'y avait pas le titre, je pense qu'on pourrait ne pas reconnaître.
Exactement, et donc c'est dingue. Alors moi j'ai entendu ça, mais peut-être c'est un tropisme personnel, comme une méditation sur la mémoire, sur la trace, qu'est-ce qui fait qu'on se souvient, qu'est-ce qui fait qu'on oublie, qu'est-ce qui fait que ça revient, qu'est-ce qui fait que ça reste. J'ai trouvé ça très envoûtant. J'ai adoré, franchement. J'imagine que ceux qui ne vous apprécient pas, ça va les rendre fous. Parce qu'ils vont se dire, là, il y a très peu de choses. Et puis, il y a presque tout de 20 ans de chemin.
Moi, il y a plein de trucs dans ce que vous avez dit. En fait, déjà, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais sorti de compilation. Avant de fêter les 20 ans, comme on l'a fait à l'Européen, il y a un mois ou deux, c'est vrai que j'ai jamais été de ce côté-là. Et puis là, finalement, on s'est dit, bon, faut faire quelque chose. Et en même temps, je voulais à nouveau, toujours, pas faire de compilation. Et donc, il y a les deux disques sont très, très différents. Parce qu'effectivement, ouais, celui qui s'appelle Sans Parole est... c'est même pas qu'il est simple, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai voulu que ce soit comme quand je joue chez moi, en gros, s'il y a du monde qui est chez moi et que je suis au piano. Et puis ça arrive des fois dans une soirée, on me dit, bon, je joue d'autres trucs aussi, des chansons qui sont pas de moi, mais si j'en joue qui sont à moi, je préfère justement que ce soit, qu'on reconnaisse presque
bien
pas.
Sûr.
Enfin, voilà.
Je précise quand même pour que les auditeurs comprennent, parce que on peut pas encore l'écouter, c'est que le piano est très très doux. Je crois qu'il y a une pédale d'appartement. Et même presque, il n'est pas nécessairement d'une très grande qualité.
Oui.
Voilà. Et donc c'est assez fascinant. On entend comme ça les années.
Et en plus, la sélection de chansons, on en a mis 20 parce que c'était les 20 ans, mais il y a quelques chansons qui sont identifiées. Il doit y avoir les filles de 73, Fanny Ardant. Mais il y a aussi beaucoup de chansons que personne connaît, à part les gens qui aiment bien tout connaître. Et je voulais que ça ressemble effectivement à une manière de jouer qui est très instinctive et qui est pas, on n'a jamais fait de ce qu'on appelle des re-re, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une deuxième piste où je joue par-dessus.
Ouais.
Donc c'est vraiment une passe. Bon, voilà. Et c'est moi, c'est aussi parce que j'aime bien des disques comme ça. Ça vient de l'époque où mes enfants étaient tout petits et où il fallait qu'ils se réveillent une fois qu'ils dormaient. Et donc j'aimais bien les albums où il n'y a pas de pic et où le son va être tout le temps de la même nature. Ce qui est valable d'ailleurs pour.
C'est pour ça que c'est. Oui,
pour
les pianos solos
de Gonzalez.
Tout à fait.
Ou pour des gens comme Kings of Convenience. Mais des fois, déjà, par exemple, chez Nils Fram ou des gens comme ça qui font juste du piano, il y a des moments où ça s'excite. Et je me souviens des fois, il fallait se précipiter pour aller baisser. Mais ça, c'est agréable, effectivement. J'aime bien ça aussi, les fois où on est dans une sorte de pièce, enfin, comme mentalement en tout cas. Et que voilà, on va être. Et puis aussi, je sais que quand on chante, la voix prend quand même beaucoup, beaucoup de place.
Ouais.
Déjà, parce que ma manière de chanter est particulière. Et en plus, je raconte des trucs, c'est en français. Donc il y a souvent des gens qui m'ont dit, moi j'aime bien ce que tu fais, mais je peux pas le mettre en travaillant, en écrivant quelque chose. Donc c'était agréable de se dire que...
Me concernant, j'ai eu la chance donc, de l'avoir pour préparer l'émission. Mais effectivement, je me suis mis à travailler dessus.
Ah, voilà un beau compliment.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, vous avez appris le piano pour chanter.
Oui.
Mais maintenant, vous avez enlevé la voix.
J'ai appris le piano. C'était même pas pour chanter, c'était pour jouer des chansons, en fait. C'est-à-dire que je me disais que j'allais les chanter, mais que mon fantasme était vraiment que, comme j'ai appris, j'avais 16 ans, je me disais, après, quand je vais être étudiant, je savais déjà que j'irais faire mes études à Rouen, parce qu'on était à 50 km de Rouen, et que mes parents m'avaient toujours dit, le jour où tu feras tes études, ce sera là-bas. Donc, des fois, on allait faire des courses à Rouen, je voyais cette ville, je passais des étudiants dans la rue, je me disais, un jour, ce sera moi. Enfin, j'étais très attiré par cette vie, et je me disais, ce serait super qu'il y ait des soirées, faire partie d'une bande de théâtre, et puis que ça chante. Et d'être le mec qui, mine de rien, sait jouer tous les accords de Michel Berger. Puis, j'avais vu ce film de Pascal Ferrand qui s'appelle L'âge des possibles. Et c'est un film qu'elle avait fait, je pense que c'est peut-être son premier film, où elle avait fait jouer des élèves du théâtre de Strasbourg, qui était l'école de théâtre que tout le monde rêvait de faire à ce moment-là, qui était un peu le TNS, c'était vraiment on avait cette idée, en tout cas, que si on faisait cette école, on devenait un comédien. Après, c'est sûr, on pouvait jouer au théâtre, au cinéma et compagnie. Et donc, on avait tous été voir ce film. Et dedans, il y a une scène de karaoké avec une fille qui est, dans mon souvenir, parce que peut-être je me trompe un peu, qui a du mal un peu à trouver sa place dans le groupe. Et et qui se met à chanter Toulouse de Nougaro.
Ouais.
Et alors, c'était pas du tout, là, je sais pas, on doit être en 96 ou un truc comme ça. Enfin, c'était pas du tout la mode de ces chansons-là. Les années 90 sont des années qui brillent quand même beaucoup par les chansons des comédies musicales, par un son très clinquant et compagnie. Et là, les gens se mettent à pleurer dans la scène, enfin, pendant qu'elle chante Toulouse, parce que c'est assez bouleversant et que c'est très simple. Et je m'étais dit, en fait, ça fait un effet aux gens, des chansons de chanter de manière très simple comme ça, mais qui racontent quelque chose de très perso. Et voilà, ça m'avait déclenché. Je m'étais dit, bah, ça, voilà, du coup, j'arriverai à me faire des amis en jouant des chansons. Mais après, j'essaie de chanter. Mais c'est vrai qu'au départ, je voulais surtout savoir les jouer.
Donc ça, c'est le deuxième album. Enfin, dans le double album, c'est celui qui s'appelle Sans Parole. Dans l'autre, comme une histoire, là, il y a des choses fascinantes. Par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Dao, dont on comprend que c'est celui qui, en fait, c'est la première version qui donnera Hacienda.
Oui.
Et finalement, Dao, vous avez dit à l'époque, bah oui, j'aime bien cette chanson sur moi, mais finalement, elle est sortie nulle part. Et là, on l'entend pour la première fois. Alors, c'est très marrant, vous me dites si je me trompe, parce qu'en fait, on reconnaît quand même un peu la structure musicale du morceau. Oui. Sauf qu'en fait, les paroles sont plus du tout celles-là. Il y a un point commun, mais ça a glissé. Et puis finalement, Dao revient maintenant.
Bah en fait oui alors autant l'album au piano il est vraiment on a voulu qu'il soit effectivement le plus simple possible, autant l'autre disque il est oui. Lui assez complexe, il est chronologique, il est par étapes avec justement aussi
même mais il commence avec la voix de Fanny Ardant.
Oui, que j'avais retrouvé une fois, elle avait enregistré le texte d'une chanson qui s'appelle À Naples, il y a peu d'endroits pour s'asseoir, pour un spectacle, et je suis retombé sur... En fait, en voulant faire ce projet sur les 20 ans, j'ai réuni un peu tout ce qu'il y avait partout, tous les enregistrements sur des CD, des cassettes que j'avais, et je suis retombé sur toute la séance de prise de voix de Fanny Ardant, donc avec aussi ce qu'elle dit entre les prises, quand elle s'adresse à nous dans le micro d'ordre et tout ça. Et à un moment donné, elle dit, pour essayer de trouver, je pense, l'intonation, alors je vais pas essayer de l'imiter, mais malgré moi, on est toujours un peu dans son phrasé quand on parle d'elle, elle dit, ah oui, c'est comme une histoire. Et donc, je trouvais que c'était joli, cette voix de Fanny Ardant qui dit comme une histoire, et ça a donné le titre au projet. Mais après, c'est dans l'ordre, et donc il y a même des enregistrements quand j'étais à la fac de Rouen, en public, des trucs comme
ça. C'est un voyage dans votre univers sur 20 ans, avec des choses très très originales, et des extraits sonores. Ça se finit sur cette question, je crois, c'est quoi une vie ? C'est ça ?
Oui, bah, c'est-à-dire que aussi, j'ai toujours eu le goût des gens qui savent un peu vous expliquer comment ils font les choses et tout ça. C'est le cas en chanson de Souchon, en cinéma, c'est pour ça que j'aimais autant Truffaut, parce que c'est quelqu'un qui a une énorme pédagogie de ce qu'il a pu faire et qui vous dit toujours j'ai fait ce film-là parce que j'avais eu envie de ça 5 ans avant et tata. Et là, ça me plaisait aussi de, par exemple, vous faisiez allusion à Dao, il y a cette idée souvent qu'une chanson, une mélodie appelle un certain texte et qu'en fait c'est ce texte-là ou rien. Sauf qu'en fait, finalement, bah il y a plein de fois où quand on sort une chanson, elle est passée par d'autres textes. Alors souvent, c'est un texte qui était assez voisin au départ qui s'est décalé. D'ailleurs, on s'est souvent attaché à ce premier texte et en concert, on a souvent tendance à se tromper. Enfin, les fois où
on revient aux paroles,
c'est ça, de revenir sur une première étape. Et sur Dao, effectivement, c'était une chanson qui faisait allusion à un souvenir que j'avais qui était resté assez gravé de deux filles qui, au bahut, écoutaient toujours des chansons de Dao en se partageant les écouteurs.
Et ouais, je vous interromps parce que faut expliquer les paroles sont géniales, bah, de mémoire. Hein. Les hommes, les garçons, ils parlent fort, ils la ramènent et tout. Et les filles, alors on pourrait se dire que c'est un peu comme par hasard, elles parlent pas du tout, elles ont les mains dans les poches. C'est pas qu'elles parlent pas parce qu'elles écoutent les mecs, c'est parce qu'elles écoutent Dao. Donc c'est assez génial.
Bah oui, c'est sûr que ça dit pas mal de trucs sur la manière que j'avais de vivre ces années-là et d'être plutôt à regarder les filles, évidemment, parce que j'étais séduit, mais aussi parce que j'étais séduit par les attitudes et la capacité à ne pas tout le temps prendre la parole et à parler plus fort que tout le monde, c'est sûr. Et en plus, pour écouter un chanteur qui chante lui-même très doucement. Mais donc là, et après, il y a eu ce projet qui est venu de raconter la vie d'un couple qui est devenu le disque des amants parallèles, et donc cette chanson ce texte n'avait plus de sens à ce moment-là, mais je voulais garder cette mélodie. Et quand le disque des amants parallèles est sorti, j'ai envoyé le disque à Étienne Dao, que je connais vraiment très peu, et cette chanson, en lui disant bah voilà, au départ il y avait cette chanson là et puis il m'a dit bah un jour il faudra qu'elle soit quelque part, et c'était le bon moment, parce que finalement ce disque comme une histoire, ça m'a permis justement de mettre tous les trucs qu'on met de côté, où on se dit ah je vais quand même pas faire un disque avec ça parce que c'est un truc qui date d'il y a un moment,
mais notamment de faire revenir les choses. On sent cette pudeur. Il y a aussi cette chanson Le silence sur le Bataclan qui finalement était pas sortie, c'est ça, et là on l'entend, ça fait du bien. Alors justement, c'est le sujet, parce que dans la chanson vous dites que bah parfois il faut arrêter de jacasser, quoi, de parler, de commenter, il y a un moment faut se taire, et là c'est une chanson dans laquelle presque vous vous taisez, même si vous chantez un petit peu. Au fond, on est pile dans notre sujet, hein, avec cet album Comme une histoire, que je vous recommande, mais que vous ne pourrez acheter qu'en octobre, parce que c'est comme un laboratoire, en fait, de la créativité. C'est, on voit comment ça se passe. L'exemple de Dao et d'Hacienda est parfait. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Et d'ailleurs, on est vraiment dans notre sujet, parce qu'au début, on évoquait tous les deux, oui, il y a ceux qui se la racontent, qui pensent que d'un côté, il y a la création, et puis les petits créatifs, c'est autre chose. Hein. Mmh. En gros, pour symboliser les créatifs, ils bossent en agence de pub, et ils sont graphistes, et les créateurs, c'est les vrais artistes. Moi, j'aime pas trop cette distinction, je suis pas sûr qu'elle ait tellement de sens. Et là, c'est intéressant, parce que dans Comme une histoire, ben d'un côté, vous avez cette posture qu'on a évoquée depuis le début, d'humilité, je bricole, je fais un kaléidoscope, et en même temps, en fait, il y a quand même l'ambition de faire un truc qui n'a jamais été fait. Parce que finalement, personne ne l'a fait, ça.
Ah oui, toujours. J'ai toujours ce truc-là. C'est le critère, même quand on est en studio, qu'on enregistre des chansons, je me dis toujours, il faut que ça ressemble à rien. Ce qui est évidemment une idée qui peut paraître négatif pour des gens, mais et puis en plus évidemment que malgré vous ça ressemble toujours à quelque chose. Mais par exemple, si on est en studio, le moment où votre titre commence à ressembler à du Gainsbourg ou des trucs, en fait il y a un premier temps où vous êtes hyper heureux parce que vous avez l'impression que vous êtes sur la photo et que vous faites partie de cette histoire là mais après dans un temps on se dit bah non là il faut quand même qu'on invente quelque chose d'autre parce que là c'est copier-coller. Donc ça c'est sûr que par exemple, on parlait des concerts, j'ai toujours voulu que les spectacles eux-mêmes contiennent quelque chose qui n'avait pas été fait la fois d'avant, mais aussi trouver des idées ou des principes ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui est excitant parce que ça permet de justement de réagencer et de continuer aussi de dérouler le fil de finalement ce que vous avez à dire, qui est toujours un peu la même chose, mais en trouvant à chaque fois des axes formels et des manières d'avancer ça qui font que ça tient la route et que vous savez que si votre disque atterrit soit sur le bureau de quelqu'un qui fait une émission de radio, il va pas se dire oh là, je vais encore, ça va encore être la même soupe, et que les gens aussi qui vous aiment bien vont à la fois vous retrouver et en même temps se disent bon, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci. Ça c'est vraiment ça qui est le plus excitant à chercher.
Celles qui ont vu trois fois Rain-Man, celles qui ont pleuré Balavoine, celles qui faisaient des exposés sur l'apartheid et sur le Tché, celles qui ont envoyé du riz en Éthiopie, en Somalie, celles qui disaient tu comprends pas, les filles de 73 ans, 30 ans, la la la. Les filles de 1973 ans, 30 ans, la la la. Celles qui mettaient des bandanas et des t-shirts Best Montana, celles qui ont porté les baskets Reebok de Rosanna Arquette, celles qui fabriquaient des bracelets brésiliens pendant l'heure d'anglais, celles qui disaient Eric Serra, les filles 73 ans, 30 ans, la 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 la. Les filles de 1973 ans, 30 ans, la 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 la. Madame, c'est vrai,
on n'a rien compris au sujet. Celle qui s'appelait Estelle Gallois.
C'était évidemment Les filles de 73 ont 30 ans de Vincent Delerme.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Vincent Delerme qui sort en octobre prochain un double album qui récapitule un peu un chemin de 20 ans.
Mon jubilé.
Voilà, c'est ça. Et alors, on vient d'écouter Les filles de 73 ont 30 ans. Alors ça me touche beaucoup parce que je suis de 1973 moi aussi. Alors maintenant elles ont 50 ans, bah, comme nous. Donc cette chanson, bon, on vous a beaucoup parlé évidemment, mais quand même il y a un truc, cet œil qui fait que ces détails-là, au fond, c'est les vrais détails, quoi. Tous les détails. Enfin, c'est tellement ça. Ça s'apprend pas, quoi. C'est un œil. C'est quelque chose. C'est presque une sociologie, quoi, sans le côté scientifique, mais.
Bah, c'est. Je sais pas si ça s'apprend pas, mais en tout cas, c'est une tendance que j'ai, qui est aussi, qui est un peu un héritage aussi, parce que mon père était très comme ça, à relever des choses, comme ça, pas invisible à l'œil nu, mais en tout cas, à déterrer un truc qui était pas si loin. Et une fois que vous avez un peu enlevé le sable dessus, tout le monde dit ah oui, c'est vrai. Mais ça veut dire aussi. Ne pas aller trop à ça. Enfin, par exemple, si on fait allusion au grand bleu, c'est quel cas, il y a des mots interdits, quoi, comme dans le jeu de société. On n'a pas le droit de dire dauphin, on n'a pas le droit de dire Jean-Marc Barre. Ou ouais. Et donc, trouve Rosanna Arquette. Dit bon, bah, c'est une manière de. Ah oui, c'est vrai, Rosanna Arquette dans le grand bleu. Et en fait, tout est un peu tout le temps comme ça. Et puis après, c'est un plaisir, effectivement, de. D'énumération des choses et aussi de confronter tout le temps, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours omnubilé, de télescoper, de faire se télescoper des choses du passé. À ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui me plaisait, c'était de dire on est passé par ça, 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 et puis là maintenant on a 30 ans. Mmh. Et ça c'est quelque chose qui est des fois mal lu parce que les gens souvent si on fait allusion à des choses du passé, ils pensent que c'est une forme de nostalgie, que vous regrettez cette époque-là. Et moi ce qui m'a toujours fasciné c'est justement de dire ah bah non c'est maintenant, c'est le présent, mais on contient tout ça et on contient évidemment c'est de plus en plus intéressant parce que au fur et à mesure de la vie on contient de plus en plus d'époques différentes.
Ça veut dire qu'on a intérêt à bien vivre avec son passé parce que plus on grandit plus on a de passé.
C'est-à-dire que ça c'est vrai que d'une manière générale sur ce que je fais souvent je sais qu'un peu quel est le rapport des gens par exemple à leur passé ou au couple par exemple quand j'avais fait Les Amants Parallèles il y avait vraiment deux catégories de gens, il y avait des gens qui me disaient ah moi ça m'a un peu déprimé ton album et d'autres gens qui disaient ah moi ça me rend super amoureux. J'ai envie de.
Moi, je suis dans la première catégorie.
Ah, bah voilà. Donc, ça, à chaque fois, ça donne un renseignement. Et sur le passé, c'est pareil. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'entendre quoi que ce soit lié au passé. Et puis, d'autres qui sont plus tranquilles avec ça ou que ça fait sourire. Et voilà.
Mais les amants parallèles, quand même. Donc, c'est dans l'album de 2013 qui porte ce titre-là. Ils sont quand même parallèles. Ils sont à côté, mais parallèles. Donc, ils ne se croisent pas.
Ouais, c'était une manière de dire que c'était un peu une vision aussi du couple. C'est-à-dire que finalement, j'avais le sentiment d'appartenir à une génération qui. Peut avoir envie de moi l'idée du couple me plaît énormément et voilà je fais tout pour que le mien dure et en même temps il y a une sorte d'image d'épinal de la fusion permanente qui a un peu disparu et des gens qui restent ensemble assez longtemps sont des gens qui sont aussi capables de maintenir une forme de solitude en même temps qu'ils sont en couple.
Vous avez évoqué votre père. Est-ce que vous vous souvenez de votre regard d'enfant? Donc vous vous êtes présenté aussi comme son héritier du point de vue de l'observation, du point de vue de cette idée qu'au fond, il n'y a pas de petits détails. J'aime bien cette idée. En fait, je trouve que toute votre œuvre, de photographe aussi, on va en parler maintenant, elle dit ça. Elle dit qu'au fond, il n'y a pas de petits détails. D'ailleurs, d'un point de vue de la philosophie du XXe siècle, c'est assez marrant parce que Sartre et Freud, enfin Freud c'est au début du siècle, sont arrivés à ça. C'est leur révélation qu'en fait, il n'y a pas de petits détails. Pour des raisons complètement différentes, parce que pour Freud, le petit détail révèle un inconscient, la libido, et pour Sartre, qui ne croit pas en la libido, le petit détail révèle un projet existentiel. Mais bon, peu importe la différence, ce qui compte, c'est le point commun. Et pour vous non plus, il n'y a pas de petits détails. Et pour votre père non plus. Mais j'ai une autre question. Votre père, il a eu un succès énorme, mais tardif, avec la première gorgée de bière. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment? Comment vous l'avez vécu, vous, quand ça a changé pour lui, comme ça?
Ah bah oui, je me souviens bien, j'avais 20, 21 ans, et déjà je suis devenu une sorte de petite vedette de la fac, parce que j'étais le fils du mec qui avait fait la première gorgée de bière, j'étais en fac de lettres, donc et c'était un petit phénomène quand même, donc il y avait, j'ai senti que les gens, ah oui, et même les profs d'ailleurs, étaient un peu dans cette idée-là, Donc c'était mon expérience du vedettariat la plus importante de ma vie, parce que j'ai trouvé ça, c'était un switch complet de rien à quelque chose. Ouais. Donc
parce
après,
que vous avez
tout
vu
ce qui m'est arrivé était moins fort.
Quand même expliquer. Vous avez vu votre père, prof, faire des livres qui étaient appréciés par la critique, mais avec très peu de lecteurs. Et puis soudain, l'énorme best-seller, d'ailleurs il a aussi été très moqué. Ça vous a fait souffrir ou vous n'avez pas eu accès à ça?
Non, j'étais assez vite là-dessus. Ça m'a jamais... En fait, je me souviens de son éditeur qui disait, mais... C'est génial, les gens vont vous détester, c'est formidable, Philippe. Il était drôle, très drôle, Gérard Bourgadier qui dirigeait l'Arpenteur.
Ouais.
Et ça, c'est sûr que c'est, faut avoir quand même un peu, comment dire, intégrer cette donnée que toute forme de succès un peu spectaculaire vous amène des choses qui sont moins drôles aussi, mais qui sont finalement, qui font plus sourire qu'autre chose, parce que si c'est, dans le cas du livre de mon père, des parodies, bon, bah, voilà, si des éditeurs ont des sous à perdre à faire des parodies, c'est comme les imitateurs, il faut bien qu'ils vivent, quoi.
Mais vous, ça vous a donné quelle envie, en fait, de voir votre père consacré, en fait, dans son désir?
Ah bah, ça, aucune. Enfin, d'accord. Je veux dire que ça n'a pas changé l'envie, c'est-à-dire que mes parents ont toujours fait des choses qui collent à la vie, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que leur production artistique colle à la vie, et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu beaucoup à cœur de faire aussi, d'être assez juste, et aujourd'hui encore, quand je vais voir Les Passagers de la Nuit de Michael Hirst, ce qui me plaît, c'est que je trouve que c'est juste, et que c'est pas...
C'est précis, voilà, ça colle à la vie.
Exactement. Mmh. Et ça demande pas mal de... Justement, là, de réagencement pour atteindre à cette justesse.
Oui, pour que ce soit pas qu'une copie, en fait.
Oui, pour pas que, quand on monte les années 80, ce soit que des gens avec des t-shirts fluo, enfin bref, c'est... La vie est quand même souvent plus complexe que la caricature qu'on peut en faire, ou la schématisation. Et puis après, coller à la vie aussi, parce que techniquement, leur manière de faire des choses était intégrée dans leur vie de prof, dans leur vie de parent, et ma mère faisait de la peinture, mais c'était sur la table de la cuisine, et quand c'était l'heure de manger, elle n'avait pas d'atelier, elle repliait ses affaires, et on dînait sur la même table où elle avait peint un quart d'heure avant, et les choses étaient comme ça, voilà, collées dans la vie. Donc finalement, ça m'a donné envie. Après, le fait qu'il ait eu un succès, ça n'a pas changé grand-chose, finalement, parce que d'ailleurs, lui n'a pas changé de vie particulièrement. Mmh. Il est resté prof après ça. Bah, le sujet de ses livres n'a pas beaucoup bougé non plus. Donc c'était
en fait,
juste...
C'est dingue parce que dans tout ce que vous racontez, vous aimez vraiment les êtres qui restent sur leur axe, quoi, qui creusent leur sillon. On voit bien que les grandes figures que vous admirez, Alain Souchon, Neil Hammond de Divine Comedy, peut-être votre père aussi, éventuellement, votre mère. En fait, vous, c'est pour ça que vous pouvez résister à la culture du clash d'aujourd'hui, à cette compétition entre rappeurs, que vous ne venez pas les grosses salles. En fait, ce que vous aimez, c'est cette fidélité, au fond, à sa quête.
Ah mais complètement. Ça c'est vraiment, c'est un peu bizarre que vous disiez ça parce que c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Je peux pas le dire pour moi comme créateur, mais en tout cas comme consommateur chez les autres. Par exemple, quand sur le Dyspanorama, j'avais fait des musiques sans avoir fait les textes encore, parce qu'au bout d'un moment, on fait toujours, voilà, on a tendance à repartir sur le même sujet. Donc je me disais, je vais confier chaque mélodie à un musicien que j'aime bien et lui demander de faire un arrangement, pour ensuite voir si ça m'inspire un texte. Et, et j'avais voulu retravailler avec Peter Van Poel, avec qui j'avais fait un disque en 2006 en Suède, et il m'a rendu un arrangement où je me suis dit, mais c'est fou quand même, parce que Peter, il trace tout son chemin en étant toujours la même personne, sans du tout faire attention au son de Virgin 12 ou de je sais pas quoi. Ouais. Et avec ce tempo, c'est qui est aussi un tempérament un peu scandinave, parce que il y a ce truc un peu de voilà. Et donc j'avais fait le texte sur qui parle d'Agnès Varda, c'est devenu la chanson Vivarda, parce que ça m'avait inspiré cette idée d'être hors compétition. Et après, je n'allais pas faire une chanson sur Peter parce que les gens voyaient pas qui c'était, et puis que Agnès était un peu pour moi l'incarnation de
elle aussi d'ailleurs
du personnage,
elle suit sa ligne,
ouais, exactement, du personnage hors compétition qui suit sa ligne. Et ça, c'est... Alors, il y a toujours un moment où, forcément, dans les dîners, tout ça, c'est moins brillant, quoi. Les gens ont un peu comme ça le culte des gens qui font des choses. Un coup, un album comme ci, un coup, un truc reggae, un truc machin. Mais moi, j'aime bien les gens qui sont un peu limités aussi.
Et puis qui durent aussi.
Qui sont limités et qui travaillent avec leurs limites.
Mais d'ailleurs, c'est aussi une réflexion sur la créativité, parce que dans Panorama, donc album de 2019, ce que vous avez fait, c'est que, au lieu de proposer des textes, par exemple, vous avez proposé à différents musiciens arrangeurs de donner la grille, la structure, et vous avez écrit dans cette contrainte.
Bah oui, parce que par exemple, Herman Dune qui a envoyé sa musique, ça m'a évoqué ce truc un peu américain de photographie. Je vous fais une transition vers la photographie, vous avez vu. Photographie américaine avec des gens appuyés sur des voitures en plein cagnard et tout ça. Donc le texte est venu comme ça.
Vincent Delerm, merci. On aurait voulu parler de photographie, mais on n'a plus le temps. Alors, je vais être obligé de le faire dans mon portrait final. Alors, vous êtes aussi photographe. J'ai coutume de résumer pour les auditeurs la philosophie de la vie de mon invité. Alors, on a bien entendu, et d'ailleurs, on va aller voir vos photos. Peut-être qu'on ira les voir encore plus, que vous aimiez coller à la vie. Voilà, pas besoin de tout casser, pas besoin de tout réinventer, pas besoin de se la ramener, pas besoin de compétition, pas besoin d'immenses salles. Mais en revanche, suivre son désir, suivre sa quête, chercher toujours à épouser le mouvement de la vie, avec tendresse, avec précision et aussi avec beaucoup d'ambition. D'ailleurs, si vous voulez voir ce que c'est que cette ambition sur 20 ans, je vous recommande le double album qui sort en octobre, Comme une histoire, avec notamment cette partie fascinante, Sans parole, où l'on découvre que le silence encore est plein de mots, que même quand il n'y a pas de parole, il y en a encore. Et c'est ça qui est beau. Merci Vincent Delerm de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. Cette émission a été préparée par Vera Louderie et Fabrice Rivaud, à la réalisation Théo Raison, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, à la technique Loïc Frapsauce.